Je vais vous parler d'un prochain jour noir où un grand malheur va s'abattre sur la France avec des milliers de personnes prises en otage le 18 octobre 2007. J'aimerais d'ailleurs savoir ce qu'en pense l'ancien journaliste de Libé qui a véritablement été pris en otage et que l'on entend parfois sur France Inter sur l'usurpation de ce terme. Pense-t-il que ce soit déontologique de la part de ses collègues qui nous bassinent avec des micro-trottoirs où l'on abuse de cette formulation ? Je serai donc ce fameux prochain jour une rapteuse, gréviste et manifestante, puisque, même si je ne suis pas concernée, je n'oublie pas qu'en 95, les cheminots sont partis les premiers en grève, largement avant tout le monde. Et même si pour la réforme Fillon, ils n'étaient pas en masse dans les rues, merci à certains de leurs syndicats qui les ont bien bernés, ils ont, au fil de l'histoire des luttes, souvent fait preuve de solidarité. Il faut savoir aussi que ces salauds de privilégiés, quand ils partent en retraite à 50 ou 55 ans, après avoir été bien usés à conduire des trains ou à les réparer, c'est avec 65% de leur salaire brut. C'est un sacré privilège comme montant de retraite. Alors oui, à la grève du 18. Et à ce propos, des préavis publics et privés ont été déposés en Loire-Atlantique. Pour finir, je viens d'apprendre que Sauvagnac disposait de fonds publics pour fluidifier les relations sociales. On pense évidemment de suite aux syndicats. N'en auraient pas profité certains d'entre eux qui signent des accords tout azimut, sans concertation avec le personnel et sans représentativité. Je pense à deux d'entre eux qui ont presque les mêmes initiales, un soi-disant de travailleur, travailleuse, et un autre complètement crétin. Ciao, c'était Rachel de Nantes.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
C'est une histoire banale. En France aujourd'hui, une femme venant de Côte d'Ivoire arrive à Paris avec son fils de 10 ans et sa fille de 6 ans. Handicapée, gravement brûlée, avait la volonté de la faire soigner. Faute de moyens, elle est soutenue par France Terre d'Asile et puis le SAMU social qui se charge de son hébergement. Elle logera avec ses deux enfants dans un hôtel en région parisienne. Sa fille reçoit les premiers soins, mais il faut encore du temps pour une opération de chirurgie plastique pour la petite. Et là, tout se dérègle. Les services sociaux ne suivent pas assez à datation le dossier, alors que le directeur de l'hôtel les avait formés que pour des raisons sanitaires, plusieurs familles d'immigrés, dont cette mère et ses deux enfants, devraient quitter l'hôtel au plus tard le 1er octobre. Résultat, sans autre forme de procès et sans que personne n'en mesure les conséquences, cette femme et ses deux enfants ont trouvé porte close avant-hier soir. Chacun se renvoie la responsabilité. En attendant, ça secourt aucun. Ils ont erré toute la nuit de lundi à mardi dans les rues de Paris sous la pluie. Seul le réseau Éducation sans frontières alertit ses protestes au secours au petit matin. C'est une histoire qui devient, et c'est cela qui est effrayant, presque ordinaire, banal et même quotidienne dans la France d'aujourd'hui. Que cela ne nous empêche pas, bien au contraire, de garder intacte notre capacité d'être solidaire et de nous révolter. C'est le seul moyen de garder dignité et espoir. C'était Yves, de la région toulousaine. Merci, au revoir.
Ouais, salut à tous. Je voulais vous informer de la mort prochaine d'une grande dame, celle de la sécurité sociale, et ce, dans le quasi-mutisme de l'opposition et des médias. Sous prétexte de l'existence de zones dites surmédicalisées, le gouvernement veut déconventionner les médecins qui s'y installeraient, et dès le mois de juin 2008. Sachant que ceux-ci sont là pour la part des femmes, sont trentenaires, ont des enfants, des conjoints, il faut savoir que 30% d'entre eux s'y installeraient quand même. Et donc, félicitations aux assurances privées qui déjà, depuis quelques jours, les contactent. Et donc, ceci aura pour conséquence, évidemment, la fin du régime solidaire, quand 10-20% de la population aura un médecin déconventionné. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Et donc, il faut savoir que les internes en médecine font grève depuis 2 semaines. Ils ont manifesté jeudi dernier. Ils étaient 10-12 000 à manifester contre le déconventionnement. Entament dès aujourd'hui une grève totale, alors qu'ils ont été reçus par Mme Bachelot, qui est enfin libéré du rugby. Et donc leur mot d'ordre, évidemment, le retrait des articles 32-33 du projet de financement de la sécurité sociale et ils demandent des états généraux de la santé. Et donc voilà ce que voulait dire le gouvernement quand il parlait de moins d'états, moins d'écoles, moins de postes, moins d'hôpitaux périphériques dans certaines régions et surtout disparition de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, bonjour toute l'équipe. J'appelle pour vous rappeler que le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, était assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Ce crime est resté impuni. Cependant, 20 ans après, sa pensée est toujours vivante, elle n'a pas pris une ride. Et de nombreux clubs se sont créés dans toute l'Afrique et même dans certains pays d'Europe pour honorer la mémoire de Sankara. Alors voilà, Daniel et l'équipe, je pense que beaucoup de gens en Europe ignorent qui est Thomas Sankara et qu'il serait peut-être bon de consacrer une petite émission à cet homme politique africain qui a une importance considérable et qui représente toujours un espoir pour les Africains. Merci, au revoir.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Ah putain, les poires qui tombent, le bruit des poires qui tombent. Mais c'était vraiment un grand moment de radio là, vous ne pourrez pas en repasser de temps en temps quoi. Vraiment, félicitations, je me suis régalé les oreilles. À très bientôt, merci, au revoir.
Bonjour, c'est encore Christine de la Creuse. Merci pour l'émission d'aujourd'hui, c'était un bonheur. Et j'avais l'impression d'entendre pousser les salades de Bruno. Et il y a une réflexion de son copain qui m'a particulièrement touchée. Il a dit « je fais du bio parce que c'est honnête ». Alors je me suis posé la question, est-ce que ceux qui balancent des tonnes d'engrais, des tonnes de pesticides, qui font de l'industrie de la salade ou de l'industrie du navet, est-ce qu'ils sont honnêtes? Il faudrait peut-être bien arriver à dire un jour qu'ils sont malhonnêtes.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Dieu te revoit même quand tu es au cabinet. Voilà ce que disait ma chère maman. Dieu te voit même quand tu es au cabinet. Et vous souriez, vous dites ah oui, ah oui. Eh bien, vous allez voir que ma mère avait raison. Ma mère avait toujours raison. Et le temps prouve à quel point, me prouve en tout cas moi, à quel point elle avait raison. Mais en cela, elle avait raison. Dieu vous regarde même quand vous êtes au cabinet. Et on va vous le prouver d'ici à 16h dans la base, si j'y suis. Comment on va vous le prouver? On va vous le prouver avec une journée tout à fait ordinaire dans la vie d'un homme tout à fait ordinaire qui se lève le matin, qui tapote sur son ordinateur, qui va au distributeur chercher de la monnaie, qui prend le métro, qui fait tout un tas de choses très simples comme nous en faisons à longueur de journée et qui ignore ou qui oublie ou qui bof. Néglige de mesurer à quel point il est surveillé. Nous sommes tous de plus en plus surveillés et on va l'être davantage puisque, vous le savez, en ce qui concerne par exemple la vidéosurveillance, notre tout nouveau président de la République s'est insurgé quand il a appris qu'il y avait 25 millions de caméras au Royaume-Uni et seulement 1 million en France. On va vite rattraper ce retard. Et tout récemment, Madame Alliot-Marie nous a appris, on est enfin ravis, que le nombre de caméras va être multiplié par 3 en France. Formidable, non, on rattrape notre retard. Mais on va le rattraper sur un peu de tout. Orwell avait raison, ma mère avait raison, mais Orwell aussi. Big Brother is watching you. Et on va se balader dans cette journée, une demi-journée aujourd'hui, on continuera demain, et on va en apprendre de belles. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, où vos messages sont enregistrés.
Oui, merci pour le témoignage de Bruno, travailleur social, passé à l'agriculture biologique. Au milieu de ces nouvelles des prédateurs du bien public que sont Lagardère et les dirigeants de la Caisse des dépôts et consignations, vous êtes un espace de sérénité dont j'ai un grand besoin. Grand merci, au revoir. C'est Sylviane.
Futur médecin imposé avec sa bite et son 7 ans en campagne, là où l'État se désengage depuis 20 ans, cherche femme mûre en tailleur rose et fan de sport pour négocier et discuter de façon constructive de la santé pour tous. Quand on aura fini la troisième mi-temps, Roselyne, appelle-nous, ça urge.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Alliot-Marie annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
J'arrive au Portillon, je sors mon passe Navigo de la RATP et tous mes voyages sont enregistrés et tracés.
Alors, le prétexte officiel, c'est mieux servir le client. C'est peut-être en partie vrai, mais ça sert aussi à autre chose. Ça peut servir à retracer ce que j'ai fait dans une journée ou dans une semaine à des fins d'enquête policière, justifiée ou non.
Salut, c'est Daniel Mermel. Eh bien, si j'y suis avec Sylvain Savolainen. Dieu te regarde même quand t'es au cabinet.
Flight number 2, arriving from
Bonjour, bonjour. J'aimerais acheter un petit objet. Est-ce que je peux voir ce que vous avez en rayon?
Mais bien sûr, monsieur.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Un sextoys. C'est un objet avec qui marche avec une pile. Et celui-ci, il a des petits piquants comme ça, mais très très doux, qui font juste des sensations dans le vagin. Et c'est très agréable.
Et...
Là, il est un petit peu gros, vous avez des plus petits, vous avez des recourbés qui vont chercher le point G. Voilà, et puis vous avez des coquerines. Les coquerines vibrants ou les coquerines comme ça qui serrent juste la base du sexe ou le sexe et les testicules.
Alors ça,
ça
c'est...
retient un petit peu l'érection et puis ça vibre sur le clitoris et c'est très agréable.
Par contre, il y a des piles.
Oui, il y a des piles.
Je préférais quelque chose de mécanique.
Alors mécanique, ça c'est sans des cravaches ou des fouets. En cuir, les vrais, avec des petits... Un petit embout comme ça qui frappe bien sur les fesses, éventuellement. Vous voulez l'essayer?
C'est moi qui l'essaye sur vous, c'est vous qui l'essayez sur moi?
Je l'essaye sur vous.
Bon, bah, pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur?
Par carte.
Alors, TNZ75, conformément à vos instructions, un lever du dispositif pour la Bravo 6. Message reçu.
Ah oui, reporter à la base où j'y suis, c'est pas une sinécure. Hein. C'est pas une sinécure, il faut être très très malin pour être reporter à la base où j'y suis. Et qu'est-ce qu'il vient de faire, notre reporter de la base où j'y suis, dans ce lieu de perdition? Il vient de payer avec sa carte. Et ça, il va s'en rappeler. Et il ne va pas être le seul à s'en rappeler. Tout le monde va s'en rappeler. Nous laissons des traces. Nous sommes de plus en plus surveillés, scrutés, fichés. Et nous vivons dans un monde de plus en plus transparent. Mais c'est une transparence, vous savez, comme les poubelles transparentes qu'on a mis un peu partout pour voir ce qu'il y a dans les poubelles. Transparente, c'est cette transparence des open space. Open space, bureau. Autrefois, on était des bureaux, on était un petit peu enfermés. Enfin, au moins, on avait un peu d'intimité. On pouvait... C'est fini. On entend les conversations des uns et des autres. Nous sommes transparents. Si vous avez un tout petit peu de notoriété publique, il y a sur Internet des tas de renseignements sur vous qui ne s'oublie pas. Nous sommes transparents et nous allons vers une société hypermnésique. Pas le contraire d'amnésie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oubli. Il n'y aura bientôt plus d'oubli. Tout reste en fiche. Tout est marqué. Tout est repéré. Et nous l'ignorons. Nous l'ignorons plus ou moins. Nous l'ignorons plus ou moins et le moins, c'est la suspicion. Nous sommes suspects. Il y a des caméras qui nous filment, qui nous observent. Il y a cet œil, en effet, imaginé à l'époque, imaginé par George Orwell, qui est devenu bel et bien une réalité. Dieu nous regarde même lorsque nous sommes au cabinet.
Le métro a l'air d'une diligence. Des affiches indiquent un numéro vert pour donner son corps à la science. Dans un ascenseur sans bouton, la France d'en bas remonte à la surface. Vomis par le cul sous la pression des nerfs. Les caméras de surveillance sourient tout en enregistrant la fin du film. Les rêves des femmes enceintes sont sur écoute. Leur bébé naissent avec toute leur dent. On en fera des banquiers qui boufferont des cuistots. Vous endormez pas sur vos marbelés. Vos menottes sont pas assez serrées. Une berceuse dans chaque poigne, des fers à repasser aux pieds. On me suit à la trace depuis que les satellites localisent les fous rires. Va falloir imiter les zombies pour pas se faire bouffer. Attirer la sympathie des jurés pour être innocenté. Les procès sont à guichet fermé. Les faits divers plaident la folie. Tellement laid qu'un jour on pendra les architectes à des grues. Névrose en plaques, noyés par balles. On applaudit à la fin du spectacle pour se féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout, d'être resté.
Bon, bah pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur ?
Par carte.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Carte-centre, mon nom est Sacré.
Oui, bonjour monsieur. Je vous bonjour. Je vous appelle, j'ai un petit souci, un petit service à vous demander.
Oui.
J'ai fait un achat récemment avec ma carte de crédit.
Oui.
Est-ce que vous en avez trace?
Je vais vite contrôler, monsieur. Je peux avoir le numéro de la carte?
Oui, c'est le 01
01
01
01
01
01
78.
78, merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors oui.
Bon, alors j'ai fait un achat le 29. Est-ce que vous en avez une trace?
Mia culpa sex shop.
Ah voilà, c'est donc marqué le nom, le type du magasin.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme nom ou trace du magasin?
Mia culpa.
Et c'est tout ce qui apparaît ou?
Non, sex shop aussi.
Ah, bah voilà, alors c'est justement là mon petit problème.
Oui.
Si vous voulez, je n'aimerais pas que ça figure sur mon relevé de carte. Ça, c'est possible?
Attendez, je vais contrôler si possible de l'effacer.
Parce que bon, je vous explique, j'ai fait donc ce petit achat. Je peux vous le dire si vous ne le répétez pas, hein, c'est une cravache. Et c'est pour mon frère, c'est pas pour moi, parce que lui, il fait du cheval. Et si vous voulez, j'aimerais pas que mon amie, puisqu'elle regarde mes factures de cartes et mes emails, elle puisse mal l'interpréter. Alors c'est pour ça que je vous demande si c'est possible de l'effacer, quoi.
Malheureusement, pas de mon part, mais je vois maintenant toutes les choses là, ou bien les transactions ici, c'est mea culpa sex shop, avec sex shop.
Ah.
C'est pas possible de l'effacer. C'est exactement la description. Nous recevrons, c'est pas quelque chose de notre part. C'est le sex shop qui nous envoie comme ça. Oui, non, malheureusement, c'est pas possible de l'effacer. Mais si c'est pour votre frère, monsieur, je pense que elle va comprendre.
Ouais, vous savez, des fois, c'est des longues discussions. Hein.
Alors,
si je paye ma facture tout de suite, est-ce que à la rigueur, le mois prochain, vous pouvez effacer la trace de l'achat?
Malheureusement pas, non, ça doit être sur la facture. Vous savez, par exemple, tous les montants lesquels vous payez, on doit les avoir sur un papier, chez vous et chez nous.
Mmh.
Même une fois envoyé, mais vous pouvez détruire cette facture comme vous l'avez...
D'accord.
Ouais,
c'est ce que je vais essayer de faire. Et par contre, alors de votre côté, chez vous, combien de temps ça va rester enregistré?
Pour toujours, cet achat, pour la facture,
ouais.
Toujours.
Oui, c'est long ça. Donc vous pouvez pas...
Non, mais votre... Je pense que votre amie a pas la... Elle va pas téléphoner chez nous pour demander. Hein.
Bah, j'espère pas, hein, vous la connaissez
non,
pas.
Non, mais elle a même pas le droit.
D'accord. Donc... Ouais,
non, c'est votre carte à vous et...
Bon, alors sur ce coup-là, bon, vous m'aidez que moyennement, quoi. Alors, j'ai une autre question. Là, oui. je suis à Paris. J'ai utilisé ma carte aussi. Je ne sais pas si vous le voyez dans mes achats.
À Paris.
Oui. Depuis que je suis là, vous avez vu si je l'ai utilisé ici à Paris?
CNCF, il y a ici des restaurants, oui.
J'ai entendu au début que la conversation était enregistrée.
Oui.
Ça, au moins, c'est possible de pas garder la conversation parce que c'est un peu gênant comme conversation, évidemment, quoi. Et je préférerais pas que ça, c'est possible, on peut s'occuper de ça?
Malheureusement pas, monsieur Savolin. Ça doit être enregistré. Même le montant, la facture et la conversation.
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui pourrait écouter la conversation?
Oui.
Aïe, bon.
Oui.
Ok. Et dernière question éventuellement.
C'est pas vraiment comment dire. Par exemple, si mon supérieur écoute actuellement cette conversation.
Ça, c'est possible.
Ça c'est possible.
Aïe.
Ou bien s'il y a quelque chose et on doit écouter de nouveau après une année, deux années, on doit écouter la conversation, on peut le faire.
Donc vous gardez éventuellement plus d'un an ou deux la conversation?
Pour toujours.
Oula. D'accord.
Ça reste encore pour 10, 20 années, mais ça fait rien, mais c'est ça, ça reste, je pense que ça va pas, comment dire, passer, que quelqu'un, ou bien, ni votre ami, ni quelqu'un d'autre va écouter cette conversation, c'est 1%, ni même pas 1% de chance.
D'accord, et si à la rigueur, moi je voulais avoir une copie de l'enregistrement, ça c'est possible, vous pouvez me l'envoyer?
De cette conversation?
Ouais.
Non, malheureusement, c'est pas.
Aïe, bon.
Ça reste juste pour nous.
Voilà, ça reste juste pour nous. Et voilà, on peut pas, ça y est, c'est à tout jamais, dans mon enfance, quand ma maman me disait « Dieu te regarde même quand tu vas au cabinet », il y avait quand même une chose, c'est que on pouvait aller se confesser si on avait fait quelque chose comme ce que vient de faire notre reporter, Sylvain, c'est-à-dire s'acheter une cravache pour son frère, d'accord, mais enfin bon, d'aller dans un sex shop qui s'appelle Mea Culpa. Bon, on pouvait aller le samedi se confesser, puis hop, il y avait la bénédiction, on avait peut-être une petite pénitence, et c'était terminé, mais pas avec Visa. Visa, c'est à vie. C'est pendant 12 générations, les descendants de Sylvain sauront que l'ancêtre est allé un jour acheter une cravache dans un sex shop qui s'appelle Mea Culpa. Et oui, c'est quand même assez. On rigole, mais ça fout un petit peu les chocottes. On est de plus en plus surveillé et on va vous le prouver. Pourquoi donc? Eh bien, c'est pour notre sécurité, pour notre bien. Nous sommes dans un monde très dangereux. Chacun de nous est une cible visée. Il y a toujours quelqu'un qui vous en veut quelque part. Et donc, la surveillance, eh bien, il faut que nous soyons surveillés en permanence. Surveillés aussi de nous-mêmes. Hein, surveillés de l'autre, surveillés de nous-mêmes. Tout ça, en tout cas, ce qui est certain, mais très très certain, c'est que c'est un business formidable. Le business de la peur rapporte gros. Le marché de la sécurité se porte comme un charme, 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France contre 9 milliards il y a seulement 10 ans. C'est pas mal quand même, hein? Alors, téléphonie mobile, internet, monétique, vidéo, du matin au soir, la surveillance de nos moindres faits et gestes génère un formidable profit. C'est des choses qu'on trouve dans le livre que publie ces jours-ci Claude-Marie Vadraud, excellent confrère journaliste, dans un livre qui s'appelle « La grande surveillance ». Avec lui, nous allons dans le métro.
Quel est finalement le but premier de tous ces systèmes de surveillance? C'est de nous protéger des autres, de nous-mêmes, aussi, voire surtout peut-être de nos peurs, de nos fantasmes. Quel est le but premier de ces...
C'est de nous mettre en état de surveillance perpétuelle. C'est aussi pour essayer de gommer nos fantasmes et nos peurs. C'est vrai, à tel point que dans certains autobus, maintenant, on met des caméras factices. Ça rassure le chauffeur, ça rassure les syndicats et le problème est réglé. C'est une espèce de lutte artificielle pour calmer nos angoisses, nos peurs, face à un monde qui nous pose de plus en plus de problèmes, qui nous agresse. C'est aussi un moyen politique de formater la population. C'est aussi un moyen de nous faire croire que nous sommes tous potentiellement coupables de quelque chose, même si nous ne le savons pas encore. Et finalement, si Staline avait disposé du fichage actuel, lui et ses successeurs seraient encore au pouvoir. Si Hitler avait disposé de ce système, il aurait pu conserver le pouvoir. C'est un fantastique outil pour les dictateurs. Alors, nous ne sommes pas actuellement en dictature, mais un accident est toujours possible. C'est ça qui me fait peur, c'est que les traces réduisent considérablement nos libertés et qu'elles nous mettent entre les mains des pouvoirs, quels qu'ils soient.
It's time to get up. The time is 7 o'clock. It's time to get up. The time is 7 o'clock.
J'arrive dans le métro. Devant moi, première chose, une caméra. C'est la journée qui commence.
On est où exactement ?
Alors là, vous êtes ici au PC de police, du poste de commandement entre nous et les réseaux de transporteurs, la RATP d'une part, la SNCF d'autre part.
Non, négatif, hein, c'est sans suite. De rien, bye. J'ai eu Z1 pour la fermeture de la station Cité à midi. Donc en face, c'est bon, ils sont au courant pour la fermeture. Hein, et ils nous contacteront sur les ondes pour donner une fermeture effective à midi de la station Cité à retransmettre à Z1. Pour la manif qui est au-dessus.
Il y a une manif qui se prépare?
Oui, sur la station Hôtel de Ville. Et ils ont demandé une fermeture de la station Cité en cas d'événement. C'est par mesure de sécurité.
Et du coup, les caméras, vous allez les observer sur les stations alentours ?
Oui, voilà. Comme le service Marcadet est terminé, maintenant je vais voir pour avoir des caméras sur la station Cité en sécurisation.
Et en cas, par exemple, de manifestation, qu'est-ce que vous allez regarder ? Qu'est-ce que...
Une éventuelle arrivée de manifestants, s'ils ont des banderoles et selon la physionomie, à savoir si c'est bon enfant ou s'ils sont éventuellement plus agressifs, pour pouvoir aviser les secteurs qui sont en surface et notamment les cordons de CRS et gendarmes mobiles qui connaissent la physionomie.
On a aujourd'hui dans le réseau ferré, dans l'ensemble du réseau ferré, côté RATP, environ 5200 caméras au jour d'aujourd'hui installées, et côté SNCF, 3000 caméras. Donc c'est un parc de plus de 8000 caméras qui couvre le réseau ferré d'Île-de-France. J'ai parlé de ces caméras, on pourrait rajouter à ces caméras les 17 000 caméras qui sont dans les réseaux de bus.
Donc c'est 8000 plus 17 000, 25 000
si on ajoute effectivement le réseau bus, hein, voilà.
Question, est-ce qu'il y a... suffisamment maintenant de caméras, enfin le réseau est suffisamment bien équipé ou il en faudrait plus, il y en a trop?
Je dirais qu'il n'y en a jamais trop pour nous. Encore une fois, notre souhait serait qu'on ait davantage de stations couvertes, davantage de lieux à l'intérieur de certaines stations qui soient couverts également. Donc il n'y en a jamais trop. Alors je pense qu'à un moment donné, il faudra faire des choix, choix financiers, choix stratégiques, hein, pour dire bon, on arrête le développement du parc, on estime qu'il est suffisamment important. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une marge de progression et les transporteurs eux-mêmes en sont conscients puisqu'ils développent, encore une fois, ils étendent encore aujourd'hui leur réseau et pour notre plus grande satisfaction.
Claude-Marie Vadron, on est à la station Strasbourg-Saint-Denis, dans le métro, à côté d'une borne Navigo. On se tourne légèrement, il y a une première caméra qui est là sur notre droite, une deuxième caméra qui est juste là sur notre gauche. Le système de caméras de vidéosurveillance s'élargit de plus en plus dans le réseau RATP, SNCF, en Ile-de-France.
Bien sûr, et le président de la République, et aussi d'ailleurs je l'ai vu dans son programme Bertrand Delanoë, nous promet d'en avoir quelques milliers de plus en région parisienne, à Paris, à la fois sur les transports en commun et dans les rues. Alors, cela dit, je regarde ces deux caméras là de Strasbourg-Saint-Denis et comme je ne vois pas la petite lumière rouge, j'ai l'impression qu'elles ne fonctionnent pas. C'est souvent le cas. Hein. Elles sont autant là pour rassurer les gens qui travaillent à la RATP que pour repérer d'éventuels délinquants, puisque de toute façon, il est prouvé que ça n'a aucune influence sur la délinquance.
Alors on est à la station Strasbourg-Saint-Ny, c'est la station, une des stations qui a été analysée et qui fait partie d'un rapport qui a été commandé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui a été réalisé en 2004. Quelles sont les conclusions de ce rapport ?
Les conclusions de ce rapport, ils sont comme toutes les conclusions des rapports de ce genre, aucune influence sur la délinquance. Il n'y a pas baisse de la délinquance après la mise en fonction des caméras de vidéosurveillance. Ça n'a strictement rien à voir parce que tout le monde les ignore et que les délinquants éventuels, si quelqu'un veut piquer le sac que je porte, il ne va pas se préoccuper de savoir s'il y a une caméra ou pas dans le couloir. Il va prendre le sac tout simplement parce que comment pourra-t-on l'identifier ensuite ?
Et la Grande-Bretagne fait office de laboratoire ou terre promise de la vidéosurveillance, tant il y a de caméras en Grande-Bretagne.
Dans certaines villes de Grande-Bretagne, on a des caméras qui parlent et qui interpellent le passant. Alors, ce n'est pas un système automatique, mais c'est tout simplement les opérateurs qui sont derrière les écrans dans les stations de surveillance qui peuvent interpeller les passants. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Parce que quel est le ton ou quels sont les messages qui sont diffusés lorsque la caméra s'adresse à vous ?
C'est traverser dans les clous, ne passez pas le feu rouge, aller aider la vieille dame qui hésite au bord du trottoir, tout ce que vous pouvez imaginer des petits événements d'une rue. Le ministère de l'Intérieur de Tony Blair avait effectivement fait rédiger les admonestations transmises aux passants par des enfants. Il y avait eu un concours organisé en Grande-Bretagne sur ce sujet et les enfants ont participé avec beaucoup de plaisir à ce concours. C'est une façon finalement d'habituer les gosses dès leur plus jeune âge à accepter la surveillance totale. C'est vraiment une façon de commencer à terroriser les gens un peu, de leur faire croire que s'il n'y a pas une espèce de grand œil qui les surveille et qui les remet dans le droit chemin, eh bien, tout va mal se passer.
Est-ce qu'il y a des experts ou des logiciels qui peuvent identifier des comportements suspects ou anormaux ou des individus repérés ou considérés comme à risque ?
Alors, il y a des logiciels qui ont été mis au point en France, à Sophia Antipolis et en Allemagne, qui prétendent repérer les comportements suspects ou violents. C'est actuellement expérimenté en Grande-Bretagne, c'est expérimenté en Allemagne et aux Pays-Bas. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment.
Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il y a des risques d'erreur ?
Le plus bel exemple d'erreur, c'est l'histoire de ce Brésilien qui a été tué il y a un an et demi par des policiers à Londres, après les attentats contre les autobus, dans la mesure où, depuis une salle de surveillance, on a déterminé que ce citoyen, mais là, c'était pas un logiciel, c'était des êtres humains. Ils ont déterminé un comportement suspect de ce Brésilien. Il se trouve que lui, il n'avait pas très chaud, bien que ça soit l'été, qu'il avait un long manteau, donc il a été désigné à des policiers qui lui ont couru après et qui, comme on le sait, l'ont abattu à son arrivée dans le métro sans aucune autre forme de procès, sans aucune sommation, sans vérification de la véracité de la suspicion qui avait été déterminée par des gens derrière des caméras.
Alors, il y a la vidéosurveillance, il y a ces caméras, donc nous allons en avoir de plus en plus dans notre bel hexagone. Ça nous a été annoncé pour la satisfaction générale, tant le besoin de sécurité est grand. Thomas Jefferson, qui fut président des États-Unis au début du 19e siècle, de 1801 à 1809, disait ceci: si vous êtes prêt à sacrifier un peu de liberté pour vous sentir en sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Alors, on continue. Caméra, mais c'est, vous savez bien, c'est pas le seul dispositif. Il y en a d'autres, par exemple, les dispositifs biométriques qui connaissent un développement formidable. En 10 ans, la demande de ces dispositifs ont été multipliés par 10. Et c'est un développement considérable. Alors avec Sylvain, on va à Morges. Morges, c'est une petite ville entre Genève et Lausanne, qui était de, on va dans une école, où, qui est équipée de ce dispositif, mais bon, il se trouve que c'est en Suisse, mais on trouve le même genre de, d'appareils, de dispositifs en France. Comment ça se passe avec les enfants? Quelle est l'efficacité de ce dispositif biométrique?
Vous êtes prêts, on va à l'école?
Oui.
Allez, on y va. Je continue ma journée, j'amène les enfants d'amis à l'école. Là, on arrive. Qu'est-ce que c'est pas pareil?
C'est pour réserver mon repas.
Tu dois réserver ton repas. Alors, c'est une grosse machine, assez électronique, et puis il y a un petit carré argenté. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bah, en fait, on doit poser notre doigt, puis notre empreinte, elle est inscrite là-dedans, puis comme, c'est comme ça qu'on réserve notre repas.
Tous les enfants de l'école, ils doivent réserver leur repas comme ça?
Oui.
D'accord. Bah, vas-y, montre-moi comment ça se passe.
Alors, j'appuie sur le menu que je veux, qui est affiché ici. Par exemple, j'appuie sur... Là, je vais réserver le menu 2, et après, je mets mon empreinte, comme ça.
Vas-y.
Oui, puis après, ça clignote vert, quand c'est bon.
Et donc, tu réserves ça avec ton empreinte digitale?
Oui.
Et donc, ton empreinte dans un fichier?
Oui.
Toi aussi?
Oui.
Mais vous avez fait une bêtise, vous avez fait un crime pour avoir votre empreinte digitale comme ça? Comment ça se fait que vous ayez votre empreinte enregistrée?
En fait, on est allé au secrétariat pour s'inscrire, puis ils nous ont demandé d'enregistrer notre empreinte sur un même appareil, seulement lui capte les empreintes, en fait.
Et comment vous trouvez ce système, vous?
Ben, moi, je trouve ça assez bien. J'aime bien. Moi, je trouve ça cool.
Tu trouves ça cool?
Oui.
Et toi, tu trouves ça bien, pourquoi?
Ben, je sais pas, parce qu'on peut mettre en réserve avec notre empreinte. Ouais, moi aussi, je veux y avoir vraiment de raison.
T'as quel âge?
Moi, j'ai 11 ans.
Et toi?
11 ans.
Et toi?
12 ans. Bah, c'est comme James Bond. Bah, quand tu dois mettre le doigt ou mettre l'œil comme ça, ça le fait.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à un tourniquet, c'est ça?
Oui. Pour.
Donc, tu peux pas passer tant que t'as pas mis ton empreinte?
Non.
Tourniquet métallique avec trois lecteurs d'empreintes. Ah. Là, la lumière est rouge, ça marche pas, ou quoi?
Alors, quand la lumière est rouge, ça veut dire que l'empreinte ne passe pas. Il suffit qu'ils bougent un peu leurs doigts ou qu'ils ont une petite blessure, et puis ça ne passe pas.
Et là, il y a un petit qui vient de passer. Vous m'avez dit, quand ils sont petits, des fois, ça marche pas, les empreintes sont...
Il y a certains enfants qui ont des empreintes qui ne passent pas ou qui n'ont pratiquement pas d'empreintes et ça ne fonctionne pas. Mais on en a très peu.
Parce que les plus jeunes, avec ce principe biométrique, ils ont quel âge?
10 ans.
Et vous, madame, je vois que vous avez une liste avec les noms. Donc, il y a un double contrôle. Il y a le contrôle par les empreintes.
Tout à fait. Il y a un contrôle qui se passe pour le cas où un enfant n'a pas l'empreinte qui passe. Moi, je dois déclaveter avec une clé et obligatoirement marquer son nom, sinon on ne saura pas de qui il s'agit.
Donc, en fait, si je comprends bien, il y a d'un côté le système biométrique avec empreinte qui n'est pas totalement sûr. Et donc, il y a quand même un contrôle.
C'est pas une question qui ne soit pas sûre, c'est une question d'empreinte des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas d'empreinte ou que leur empreinte ne fonctionne pas parce qu'ils ont les doigts trop petits. Donc, ce n'est pas du tout une question de lecteur.
Tu prends pas de salade, toi?
Non, je prends pas. J'ai pas envie.
C'est pas obligatoire de manger un peu de salade?
Non. Je vais manger une saucisse avec des pommes de terre.
Et toi, tu prends la salade?
Non. Non, non.
Toi non plus. Tu vas manger quoi?
Une saucisse et des pommes de terre aussi.
Et toi, tu vas manger quoi?
Une saucisse avec des pommes de terre.
Et c'est donc toujours toi qui choisis ton menu?
Ouais.
Toi aussi?
Oui.
Il y a personne qui dit quoi manger, en fait?
Non.
Toi non plus, il y a personne qui dit quoi manger, tu manges ce que tu veux?
Oui, je mange ce que je veux, oui.
Toi aussi, tu manges ce que tu veux?
Ouais.
Ça marche pas?
Non, ça marche pas.
Plus bas. Enlève-le, mais le plus bas.
Ça marche toujours pas?
Non.
Laisse. Il l'a déjà mis avant. Non, laisse Bastien. Il fait rien.
Maude. Remets-le encore une fois. Ça a passé l'autre jour.
Non, vous m'avez ouvert l'autre jour.
Merci, alors merci. Vas-y, Jennifer.
Voilà, c'est bon. Bon appétit.
Merci.
Alors, Madame Corbin, vous êtes chef de l'administration des écoles. On est à la cantine. Monsieur Voru, vous êtes le maire de Morges. Qu'est-ce qui a été finalement décisif pour adopter ce système par reconnaissance biométrique? Pourquoi ce système par reconnaissance biométrique?
Simplement parce que c'était la simplification, c'était une nouvelle forme de cantine scolaire et surtout le fait que les enfants aient son empreinte digitale, on peut dire, faciliter aussi le travail du secrétariat et avait une sécurité pour les enfants eux-mêmes, du fait qu'ils n'avaient pas besoin de prendre l'argent avec eux. On sait quand même que là, on peut partout les racket entre enfants et là-dessus, on a voulu, au point de vue de sécurité, sécuriser les enfants sur cette question-là.
Il y avait beaucoup de rackets?
Non, il n'y a pas beaucoup de rackets, mais ça existe. Ça peut inciter d'autres à le faire, ça. Hein, le fait qu'autrement, ça joue. Ben, avec ce système-là, ben là, ce danger est éliminé.
On voulait vraiment un restaurant sans argent et vraiment que ce soit un restaurant scolaire. On trouvait même que cantine, c'était péjoratif. Que ce soit un endroit où ils se sentent bien, où il n'y ait pas de possibilité d'acheter autre chose que le menu. Et c'est aussi pour cette raison qu'on sert aussi que de l'eau. Hein, c'était pour des raisons de santé.
Et si des parents ou des enfants ne voulaient pas réserver leur repas ou payer leur repas par empreinte digitale, c'est possible, vous l'acceptez ou c'est la condition un peu sine qua non pour participer et pour pouvoir manger ici à la cantine?
C'est certainement la condition sine qua non, mais nous n'avons pas eu de demande de la part de parents qui voulaient payer autrement. Parce que les enfants ont aussi la possibilité d'aller manger ailleurs. Hein. Il y a aussi le restaurant à côté qui sert des pizzas, des frites, toutes sortes de choses. Donc les enfants ne sont pas obligés de manger un repas complet comme ici. Hein. Certains enfants peuvent aller ailleurs et on a le McDonald's à la gare. Ça dépend de la responsabilité des parents.
Et est-ce que ce système biométrique, c'est aussi pour optimiser peut-être la quantité des menus et des portions?
Voilà, c'était dans ce but également. C'est parce que nous faisons venir la cuisine de l'extérieur. À partir de 9h30, nous avons aussi par procédure informatique le nombre de repas 1, de repas 2. Et ça permet aux cuisiniers ou aux traiteurs de pouvoir livrer le nombre de repas dans les limites qui se rapprochent le plus près de la réalité. Voilà.
Optimiser la nourriture.
Tout à fait, c'est ce qu'on voulait.
Optimiser les quantités.
Voilà, tout à fait.
Donc vous êtes content de ce système?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair, on va le maintenir et l'améliorer. Et puis, il y aura de nouvelles techniques, puisqu'on parle même maintenant, il suffit de mettre l'œil en appareil et puis ça enregistre.
Hein, donc. Ça, vous l'envisagez?
Si la technologie va dans ce sens-là et puis qu'il n'y ait plus des empreintes digitales, pourquoi pas, hein, pourquoi pas,
ouais. À l'époque, on n'avait pas osé. Ce système de l'iris existait, mais on n'avait vraiment pas osé parce qu'on s'est dit que là, on aurait un tollé des parents. Ouais.
Alors voilà, l'efficacité très, très relative. Et puis le principe même rebute certains élèves, certains parents d'élèves, et qui ont fini, dans certains endroits, à refuser tout simplement. C'est le cas au lycée Maurice Ravel à Paris, dans le 20e arrondissement.
Juliette, Ulysse, on est devant l'entrée du lycée Maurice Ravel. Il y a une tentative, une mesure d'installation d'une borne biométrique par la direction, sauf erreur. Comment s'est passée la présentation, l'adoption de la mesure?
En fait, moi, j'étais au conseil d'administration. Donc, il y a eu une avalanche de chiffres, le budget habituel. Donc, nous, on ne comprend rien. On était un peu endormis. Et là, d'un coup, au passage, donc on nous dit qu'il y aura installation d'une borne biométrique. Et il y a des parents d'élèves qui ont réagi et on a demandé 5 minutes pour en discuter. Donc on a un peu débattu, on a fait un vote. C'est Louis qui l'a emporté, mais les parents n'avaient pas été mis au courant, la CNIL n'était pas au courant. Et on allait commencer les mesures des mains des élèves la semaine suivante, alors qu'il y allait avoir les vacances dans une semaine et demie. Quoi, donc,
Est-ce qu'il y a eu un débat, une discussion, de l'information, soit envers les parents, envers les élèves, débat au sein du lycée?
Non, avant en tout cas le conseil d'administration, il n'y a eu aucun débat, les parents n'étaient pas au courant, les élèves non plus. Et donc nous, en fait, on a essayé d'organiser un peu ce débat, mais on était complètement pris par le temps. Donc on a essayé d'organiser une AG et tout, mais les gens étaient assez peu réceptifs, à part les lycéens, pas les collégiens, quoi. Enfin, donc les collégiens venaient pas et ils s'en fichaient un peu, quoi.
Pourquoi, ton avis ?
Bah parce que ça les amuse, surtout. Ça fait un peu ce film de science-fiction et ils se rendent pas compte, enfin, des implications, je pense, qu'il y a derrière le fait d'installer une bande biométrique.
Et quand vous dites on a essayé de parler aux collégiens ou aux autres lycéens, qu'est-ce que vous leur disiez ? Quels étaient vos arguments contre la bande biométrique ?
On essayait de les mettre en garde sur le fait que, bon, en soi, une bande biométrique à la cantine, c'est rien. Mais que c'était les implications que pouvait y avoir ensuite, en fait.
Pour moi, ouais, ça implique un certain nombre de choses, notamment que installer une borne biométrique à l'entrée d'une cantine, là où il n'y en a vraiment pas besoin, c'est une sorte de banalisation de ces technologies de surveillance. On installe ça à des collégiens, ensuite, ils deviennent lycéens, bah, ils ont l'habitude, ils continuent et... ça peut se retrouver partout dans la société, presque du jour au lendemain, sans que personne ne prenne en compte ce que ça implique.
Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été accepté, refusé, adopté ?
Bah alors, au final, en fait, le jour même où nous, on devait avoir cette mobilisation, le matin, la directrice ou je ne sais plus qui de l'administration avait annoncé aux Parisiens que la machine était enlevée. Et,
Donc, si je comprends bien, la mesure avait d'abord, dans un premier temps, été adoptée. Faute de débat, faute de discussion, faute d'information, une fois que le débat, la discussion a été lancée, entre autres par les étudiants, les parents d'élèves, d'autres élèves ont pris conscience de la mesure et finalement ça a été retiré.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je pense que si personne n'avait rien dit, ça aurait été accepté comme ça l'est dans beaucoup de collèges, lycées en France. Et c'est juste le fait qu'on ait mis en évidence ce truc qui a permis de la retirer, je pense. Il y avait un truc qui m'avait beaucoup touché quand on avait fait ce mouvement. On avait demandé aux associations, etc., d'écrire des communiqués. Et il y a une association en particulier qui avait écrit un communiqué. C'est une association d'anciens déportés qui, a priori, n'a rien à voir avec cette histoire et qui avait écrit un communiqué en disant si des techniques comme ça avaient existé sous le nazisme, on y serait encore sûrement. Et même si j'ai un peu du mal avec ce parallèle souvent, ça m'avait assez frappé que des anciens déportés s'intéressent à ce sujet.
Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté?
L'avenir est incertain, nous le savons tous. Big Brother n'est pas si loin, plus il nous entoure et plus on ne fait rien. Sa richesse nous détrousse, partant d'insidieux moyens. De son dard il savoure, en pur stoïcien, ce mal dans les figures qui lorde nos quotidiens. Qui prétend ses discours se pratique pour notre bien. Il se donne même des atours de véritable ange gardien. Mais n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui se proposent d'améliorer ta vie. Ta lèche te séduit et tu souris, alors que par derrière le pharaon à fond autour, quand il veut, il obtient et fait payer la facture à tous ceux qui n'ont plus rien. Chaque état à ce jour lui mange dans la main et nous donne en pâture. Assassin, assassin, au fur et à mesure, nous sommes le dessin d'amour dans les contours. Résultat commercial dessin, à quoi bon le futur quand on connaît sa fin? Crémater dans un four,
il fera tourner nos moulins.
Mais le monde appartient à ceux qui se proposent d'améliorer ta vie.
Je m'assieds devant mon ordinateur. Pas d'accès si je ne donne pas mon nom d'utilisateur et un mot de passe. Ma session s'ouvre, sont enregistrées toutes mes manipulations et utilisation Internet. Je vais sur un site d'achat de livres.
Ça fait des mois que je n'ai pas consulté le site, mais à peine la page d'accueil s'ouvre, le serveur du site a reconnu mon adresse, tous mes achats et mes différentes cartes de crédit sont enregistrées. Je vais sur un journal en ligne, pareil. Le journal me reconnaît et sait exactement tous les articles que j'ai consultés et toutes les recherches que j'ai effectuées.
Eh oui. Il y a quelqu'un qui vous observe derrière l'écran de votre ordinateur et qui prend des notes sur vous et sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous pensez. On en apprendra plus demain. C'était un reportage de Sylvain Savolainen. À lire le livre de Claude-Marie Vadreau qui vient de sortir aux éditions du Seuil, La Grande Surveillance. Peut-être qu'on parlera d'Elsa, c'est joli, hein, ce prénom. Elsa. Ah ! Eh bien, Elsa, ça veut dire engin léger de surveillance aérienne. On ne savait pas ça, hein, toutes les filles, les femmes qui s'appellent Elsa ne savent pas que leur nom veut dire ça, engin léger de surveillance aérienne. Ça a été présenté au récent salon du Millipol. Et c'est un drone qui va être mis en service pour surveiller la banlieue, vous savez, les banlieues. On va les surveiller de haut, ces gens-là, maintenant. On va les prendre de haut. Et puis autre chose, ce soir à 19h, le café repère de la Bastille, j'y suis, de Nantes, qui s'appelle Le Masque et qui est 9 allée de l'Erdre, E-R-D-R-E, Erdre, comme merdre dans Alfred Jarry, c'est l'Erdre, au bout du cours des 50 otages, eh bien recevra nos amis les surréalistes, c'est-à-dire Guillaume Podrovnik et Antoine Silvestri, pour la publication de leur bande dessinée que nous vous conseillons, qui s'intitule « Tout doit disparaître ». Vous pouvez retrouver des extraits de cette BD et les chroniques du Journal du Futur. Vous vous souvenez, le Journal du Futur, sur le site, leur site, www.surrealisme.org. Surrealisme tout attaché. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis », où vous pouvez réécouter cette émission et les claquements de cravache qui visiblement vous ont enchanté. Et vous pouvez écouter également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Farid Chibani, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry qui s'occupe également du répondeur qui attend vos coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et vous avez aussi le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Demain, on va continuer à s'inquiéter. Il y a vraiment de quoi flipper un petit peu avec toutes ces histoires de surveillance. Et vraiment, il faut relire Orwell, 1984, il faut relire La ferme des animaux d'Orwell, et il faudra s'intéresser à un morceau de la préface de La ferme des animaux qui avait été supprimée dans la version de l'époque. On en reparlera de ça parce que c'est un grand détail très très important dans l'histoire, non seulement de la littérature mais carrément de la pensée. Pub.